Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins de la connaissance, tous les jours, de 10h à 11h et sur internet, 24h sur 24, sont réalisés cette semaine par François Connac avec Alexandre Dang à la technique, préparés par Avril Ventura, Geneviève Méric, Mathilde Unger, Camille Lugan et Adèle Van Rett. Adèle, justement, qui vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h50, comme tous les jours, pour le journal des nouveaux chemins. C'est la suite, ce jeudi, d'une semaine sur la folie dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Judith Revel, venue vous parler de Foucault, Evelyne Grossman, venue vous parler d'Artaud, Antonin Artaud, Carole Desbarat, venue vous parler de cinéma, c'est le philosophe et l'ami Nicolas Grimaldi qui est aujourd'hui l'invité des nouveaux chemins de la connaissance. Nicolas Grimaldi qui signe, pour la plus grande joie de ses lecteurs, un livre aussi remarquable que les autres, intitulé « Une démence ordinaire », paru aux Presses universitaires de France. Bonjour Nicolas Grimaldi.
Bonjour à Alain Tovin.
Bonjour, c'est un plaisir, c'est une joie de vous accueillir, comme toujours, au nouveau chemin de la connaissance.
Comme tous les grands professeurs, vous êtes indulgents.
Voilà, et grand professeur, parlez de vous-même. Alors, on va parler avec vous de ce livre « Une démence ordinaire » paru aux Presses universitaires de France, dans le cadre de cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la question de la folie. Mais avant cela, je voudrais revenir avec vous sur le début de la conversation que j'ai eue lundi dernier avec Judith Revel à propos de Michel Foucault. Dans l'histoire de la folie à l'âge classique, Michel Foucault fait grand cas d'un passage de la première méditation métaphysique de Descartes, un passage fameux dont je rappelle pour mémoire qu'il dit ceci « Comment pourrais-je nier, demande Descartes, que ses mains et ce corps-ci soient à moi, si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile, qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Mais quoi ? S'indigne Descartes, ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. » Dans son histoire de la folie à l'âge classique, Michel Foucault commente cette phrase pour en faire en un sens à la fois la matrice et le symptôme de ces procédures d'enfermement, en vérité, de la folie dans le cadre de la raison, de réduction de la folie à la déraison, dont témoigne, à ses yeux, l'âge classique, en termes philosophiques, comme sociologiques d'ailleurs. Que pensez-vous de l'interprétation que Foucault propose de cette citation de Descartes, de cette excommunication de la folie par Descartes, du sentiment cartésien qu'au fond la pensée ne peut pas être folle, Nicolas Grimaldi ?
Vous étonnera-t-il si je vous dis
que vous n'êtes pas d'accord avec Foucault.
L'interprétation de Foucault, pour brillante qu'elle soit, me paraît se rendre en partie aveugle au sens même, au mouvement même de l'argumentation cartésienne.
C'est-à-dire
que, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais je le connais à peu près par cœur. Que nous dit Descartes ? Il dit, si je doutais de tout, je serais comme ces fous. Aussi l'interjection, mais quoi ? Je suis un homme raisonnable, je ne suis pas fou. Mais aussitôt, car toute la première méditation est construite par un mouvement du doute et un repli par une objection. Il résout cette objection et il y a une nouvelle objection. Alors, à l'objection de la folie, alors vous ne pouvez pas douter, il faudrait être fou. Et il répond, mais quoi ? Combien de fois ne m'est-il arrivé de croire que j'étais assis auprès du feu, avec cette feuille entre les mains, alors que j'étais tout nu dans mon lit. Ce que nous dit donc Descartes, c'est que chaque fois que nous rêvons, nous prenons l'irréel pour réel et le réel pour irréel, et à cet égard, tout rêveur est un fou qui s'ignore, ou un fou en liberté. Qu'est-ce qui peut nous réveiller de cette folie ? Quel rêve ? Rien que le doute. De sorte que ce que Descartes nous dit, non pas explicitement, mais fort implicitement, c'est que tous les hommes sont des fous en liberté, prennent l'irréel pour réel, ils prennent les qualités secondes pour les qualités premières. Ils croient que la chaleur est inhérente au bois, ou que la couleur est inhérente aux fruits.
Que la vessie est inhérente à la lanterne.
Voilà, ou que les étoiles sont comme des petites bougies. Bref, ils croient. Et quand ils croient, ils sont comme des fous. C'est une sorte de douce folie. Ils n'agressent pas les gens, ils ne les tuent pas, mais c'est une douce folie. Et rien ne peut nous guérir de cette folie que le doute. De sorte que tout homme qui ne s'est pas soumis à l'épreuve du doute est une sorte de fou insomniaque.
J'ai deux objections à vous faire, Nicolas Grimaldi, pour rester un instant sur ce débat, parce que c'est passionnant d'en parler avec vous. Permettez-moi de rester un peu sur ce débat. D'abord, Foucault lui-même distingue, à bon droit d'ailleurs, chez Descartes, la folie du rêve. Il dit « la folie se situe à mi-chemin de l'onirique et de l'erroné ». On retrouve ici d'ailleurs un sens de l'allitération de la sonorité chez Foucault qui est tout à fait remarquable. « Folie entre onirique et erroné ». Il ne la réduit pas au rêve, ce que Descartes lui-même d'ailleurs ne fait pas. Et la deuxième objection, c'est que dans les fameux trois rêves de Descartes en 1619, dont je n'ai pas le texte sous les yeux, mais de mémoire, Nicolas Grimaldi, dans l'un de ses rêves, je crois le rêve où il rêve d'un melon, je crois me souvenir que Descartes raconte lui-même qu'à l'intérieur même de son rêve, il analyse son propre rêve. En d'autres termes, on peut chez Descartes rêver tout en étant conscient qu'on rêve.
Il rêve qu'il interprète le rêve qu'il vient d'avoir. L'un de ses rêves lui présente un recueil de poésie, l'autre le melon, et il s'éprouve assigné par ce rêve à une mission que les puissances ténébreuses lui assignent, c'est d'unifier toutes les sciences, de même que le recueil de poésie rassemble tous les poètes. On pourrait commenter ce rêve, qui montrerait un peu la folie de Descartes. Car s'il n'avait déjà eu, comment dirais-je, cette volonté paranoïaque, je vais expliquer toute chose, réunir toutes les sciences en une seule, s'il en avait déjà formé, ne serait-ce que de façon imaginaire ou inavouée, le projet, jamais il n'eût commenté son rêve de la sorte.
De sorte que le fait que Descartes pense la possibilité de savoir qu'on rêve tout en rêvant n'est pas une objection au fait que le rêveur est un fou qui s'ignore.
Il rêve qu'il a rêvé. Il a rêvé, puis il rêve et il rêve qu'il interprète son rêve. Mais il est toujours dans le rêve, car le propre du rêve, en dépit de ce que dit Freud, je crois, le propre du rêve est, comment dirais-je, d'éprouver tout ce qui est réel comme irréel et comme absolument réel l'irréalité qui le hante. Ce qui fait la force du rêve, c'est qu'on l'éprouve comme une réalité. Et le rêve est éprouvé comme d'autant plus réel. Il a un coefficient d'autant plus élevé de réalité qu'on ne peut pas lui échapper dans le moment où on l'éprouve. Dans la réalité, ce qui fait que la réalité est un peu moins réelle qu'un rêve. Dans la réalité, je peux fuir la réalité qui m'offense, qui m'opprime, vers une autre réalité. Je peux m'échapper. Mais dans le rêve, il n'y a pas de rêve vers lequel fuir pour échapper à un rêve.
Le paradoxe, c'est qu'on ne peut pas fuir la fuite elle-même.
Entièrement. Il y a une obnubilation au propre rêve, tandis que dans la réalité, il y a une... Comment dirais-je ? Je puis imaginer 1000 conduites possibles, chercher une solution au problème qui m'est posé.
Mais il n'y a pas d'échappatoire à l'échappatoire lui-même.
Il n'y a pas d'échappatoire au rêve. Et en cela, il est comme la croyance.
C'est justement...
Je crois totalement au rêve qui me hante.
Parce que la question de la croyance,
C'est en cela qu'il m'a semblé que le rêve pourrait, à bien des égards, servir de modèle, de paradigme pour comprendre la croyance. Ce qui fait qu'elle nous aveugle à toute une partie de la réalité.
Et ça, c'est l'objet de votre livre, Nicolas Grimaldi. La démence ordinaire. La question se pose, en vérité, pour prolonger peut-être la question cartésienne. Après tout, le lecteur de Descartes que vous êtes se retrouve dans tous vos livres. La question que vous posez, l'une des questions que vous posez, c'est la question de savoir, finalement, s'il est possible de ne pas croire à sa croyance. Comment croire sans croire qu'on croit ?
Je me pose aussi cette question. Dans quelle mesure sommes-nous responsables de nos croyances ? Quand on voit à quoi, enfin, si j'ose dire, je réitère à propos du XXe siècle, les questions que Voltaire s'était déjà posées à propos du XVIIe et du XVIIIe. Ce livre, pour en parler sommairement et rapidement, est conçu comme un contrepoint. Il y a un premier sujet, qui est le problème du sens de l'existence. Et un contre-sujet, qui est le sens de l'existence, peut-il n'être pas la construction, l'accession à la Jérusalem céleste ou la construction de la Jérusalem terrestre. Donc il y a un chapitre sur le fait que nous cherchons le sens d'existence, puis deux chapitres qui sont consacrés à la croyance et au fanatisme, et à montrer que le sens de l'existence ne peut pas être ce que la croyance nous promet. Et un quatrième chapitre qui est une reprise, et qui dessine ce que peut être le sens de l'existence, indépendamment de toute promesse à la fin des temps, qu'il s'agisse du savoir absolu, de la société sans classe ou du royaume de Dieu.
De la croyance, vous dites qu'elle n'a besoin d'aucun lien avec la réalité, et même plus elle est loin de la réalité, c'est tout le paradoxe de la croyance, plus elle est solide. Sa solidité est à la mesure de son éloignement du réel. En somme, moins elle s'offre à la possibilité du démenti, plus elle est solide. C'est ici qu'on peut parler, en un sens, de folie, c'est-à-dire d'un système qui, en aucun cas, ne s'expose à la possibilité d'être réfuté par la réalité.
Tout à fait. Il m'a semblé que, quand c'était un peu mépris, lorsqu'il avait défini la croyance comme un degré de la connaissance. Qu'est-ce qu'une croyance ? C'est une connaissance fragile, une connaissance mal fondée, mais pas totalement dépourvue de quelque vraisemblance. Mais connaissance que nous ne pourrions pas faire, partager à l'ensemble des hommes. À l'inverse, une croyance fondée sur suffisamment de faits ou suffisamment de démonstrations pour que tous ceux qui voudront les considérer la partagent devraient porter le nom de science. Bien, il m'a semblé que c'était un peu mépris sur le caractère de la croyance. Si la croyance était ce qu'il dit, ce qu'elle est en fait, si j'ose dire objectivement, une connaissance qu'on ne connaît pas, une connaissance qui manque de preuves, de fondements.
C'est à la fois double méconnaissance. La croyance est une méconnaissance du réel et c'est par ailleurs une méconnaissance qui s'ignore comme telle.
Elle ne veut pas.
Une méconnaissance qui ne se connaît pas comme méconnaissance.
Le propre de la croyance est de ne pas vouloir reconnaître qu'elle soit une pauvre croyance. De sorte que la croyance relève moins d'une débilité ou d'une indigence de l'entendement, faculté de la connaissance,
que d'un envoûtement.
Que d'une arrogance de la volonté, j'y crois parce que ça me fait plaisir d'y croire. Et toutes les raisons qu'on peut m'objecter ne valent rien contre l'intensité de la satisfaction que j'éprouve en y croyant.
Mais Nicolas Grimaldi, celui qui dit « j'y crois » dit également « j'en doute ». Si je vous dis « croyez-vous en Dieu », permettez-moi juste cet exemple. Deux exemples. D'abord, connaissez-vous des enfants qui croient, dur comme fer, si j'ose dire, au Père Noël ? Ou bien, que se passe-t-il quand un enfant, on en parlait il n'y a pas longtemps au chemin justement, que se passe-t-il quand un enfant découvre que le Père Noël n'existe pas ? Il découvre quelque chose qu'il savait déjà. Toute la douleur de la découverte lui vient du fait qu'il n'était pas sans savoir ce qu'il feint de découvrir. Autre objection. Si je dis « je crois en Dieu », qu'est-ce que je dis par là? Je dis que je ne sais pas si Dieu existe, mais qu'en ce qui me concerne, j'y crois, que je fais le pari d'y croire. En d'autres termes, je doute.
Vous parlez comme quelqu'un qui ne croit pas. Il me semble, en effet, que les enfants qui croient au Père Noël, ou plutôt que pendant que les enfants croient au Père Noël, ils ne doutent pas qu'il n'existe. Et ils ne doutent pas plus de l'existence du Père Noël qu'ils ne doutent de la sincérité de l'affection de leur mère, de l'autorité de leur père, de son savoir-faire, etc., etc. Quant à ceux qui croient en Dieu, je connais suffisamment de collègues, comme on dit, croyants. Je vous en donne un exemple. Je connais un professeur d'histoire de la philosophie, un professeur dans une université, qui croit tellement en Dieu que son père étant mort, il lui avait dit « J'aimerais bien que tous les enfants, vous puissiez vous réunir au moins une fois par an. » Mais voilà, une sœur est au Kenya, l'autre est aux États-Unis, c'est pas très commode. C'est pas tout à fait même, c'est pas un train de banlieue. Alors tous les soirs, il prie son père de prier tel saint, de prier la Vierge, de prier Jésus, de prier son père, de favoriser leur réunion. Et un jour, il est invité à une réunion politique, à un colloque politique à Ceylan. Il va à l'agence de voyage, mais ne serait-il pas possible de m'arrêter au Kenya? Évidemment. Et il me dit, tu sais, la puissance de papa, la puissance d'intercession fait que je vais revoir ma sœur. Donc il...
Vous voulez dire que quelqu'un qui croit ne doute pas de ce qui fait l'objet de sa croyance?
Car ce que nous prenons pour un miracle capable d'une double lecture, on peut dire que plusieurs chaînes de causalité se sont conjointes pour produire tel événement. Il était nécessaire qu'il se produisît. Mais le croyant a le sentiment que, comme il a demandé cette faveur, Dieu a pu mettre à profit des causalités naturelles, mais tout simplement c'est un signe qu'il nous envoie, une réponse à l'attente que nous lui avions exprimée dans notre prière.
Mais comment comprenez-vous alors, Nicolas Grimaldi, comment expliquez-vous que la démonstration physique, rationnelle, donc en vertu des lois de la physique par exemple, la démonstration du fait qu'aucun homme ne peut, en vertu des lois de la physique, marcher sur l'eau, comment expliquez-vous qu'une telle démonstration n'est aucune prise sur des esprits parfaitement structurés par ailleurs, mais qui continuent de croire, et je mets ici le mot entre guillemets, que Jésus a marché sur les eaux? Est-ce que cela tient au fait que les esprits en question sont tellement bornés qu'aucune physique ne peut accéder à leurs sentiments? Ou est-ce que ça tient pas au fait que eux-mêmes savent déjà qu'aucun homme ne peut marcher sur l'eau et que c'est précisément parce qu'ils ne l'ignorent pas qu'ils choisissent de croire que c'est le cas d'un seul. Comment se fait-il que les demi-habiles n'aient aucune prise sur les hommes de foi?
Si c'était qu'ils fussent bornés, ce serait à cause de leur entendement, des limites de leur connaissance, de leur capacité, de leur intelligence.
Ça, c'est Descartes.
Mais il ne s'agit pas de connaissance, il ne s'agit pas d'entendement. Il s'agit de volonté. Ils se sont engagés à croire à la chose la plus invraisemblable. Mais prenons des exemples encore plus récents. Pierre Pascal, normalien, futur professeur d'allemand à la Sorbonne, mais communiste, il était en Russie en 1917, il y reste. Arrive de jeunes intellectuels parisiens, mais arrivent en 1920, en pleine famine, en pleine pénurie, et qui sont émerveillés de voir l'abondance, disant, mais j'ai vu hier un fonctionnaire de la Promptbank qui m'a dit que la masse des réserves monétaires et économiques aujourd'hui était supérieure à celle des États-Unis. Et Pascal dit, ils refusaient de voir ce qu'ils avaient sur les yeux, et ils ne croyaient que ce qu'ils ne pouvaient pas voir. De senti dans des entretiens
Jean Toussaint de Santilly.
Quand on était en Russie, il était très difficile de trouver une boîte d'allumettes. Néanmoins, nous ne doutions pas du succès économique de l'URSS, qui devait se manifester dans le développement de l'industrie lourde, dans le complexe industriel, dans le Spoutnik, etc. Et il ajoute, dans un autre texte, dans d'autres entretiens, « Ceux d'entre nous qui n'appartenaient pas au parti doutaient fort que les procès de 36 eussent le moindre fondement. Mais à peine était-il entré au parti qu'il n'en doutait plus. »
C'est dire peut-être qu'ils en doutaient encore, Nicolas Grimaldi.
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Au nom
Comment
de...
un homme peut-il assumer en lui-même la décision
Car,
de ne plus douter
au nom
autrement
de cette
que...
croyance, ouais, allez-y. Si l'on doutait, enfin, personne ne serait assez inhumain pour accepter, pour consentir à l'élimination, à l'humiliation, au servage de millions d'hommes, si ce n'était pour une croyance que nous prenons comme telle, c'est-à-dire bien fragile. Non, on ne peut l'accepter que si on est persuadé que ils sont la réalité du mal, le bien est en marche, et il faut consentir à illuminer tous ceux qui le retardent ou s'y opposent.
À moins de faire de cet idéal en question une pulsion de mort et de considérer par exemple que le degré de fanatisme est inversement proportionnel, ou plus exactement que plus un homme doute du dieu auquel il adhère, plus il est prêt à mourir pour lui. Comme si le geste qui était le sien était une garantie supplémentaire du dieu dont l'existence ne lui est pas garantie. Comment comprendre par exemple qu'un l'argument qui voudrait qu'un fanatique croit moins en Dieu que celui qui y croit de bonne foi et qui s'inspire au fond de la croyance qui est la sienne pour tout simplement faire le bien autour de lui?
Il me semble que le propre de la croyance... aussi bien Rousseau, Guyot le répète, une religion qui commence à douter, si peu que ce soit, de ses croyances, est déjà en voie de disparition. Une croyance qui se remet en question n'est plus une croyance, elle est déjà incroyante. La question est celle-ci, me semble-t-il. Comment peut-on croire qu'on sait sans savoir qu'on croit?
Ça, c'est la phrase d'Alain Besançon.
C'est une phrase qui est dans l'italien.
Voilà.
Oui. Mais c'est
parlant, le problème. Parlant des staliniens.
C'est le problème. Mais c'est exactement cela. C'est le problème de la croyance. Mais, lorsque vous dites que plus la croyance est faible, plus... On a tendance
à y adhérer.
Oui, mais plus on a tendance à y sacrifier de choses pour la revigorer.
En somme, l'hypothèse que je vous soumets, c'est de partir de l'idée que...
Ce sont les martyrs chrétiens dans l'arène. C'est Blandine ou Saint-Sébastien avant que ce ne soit tous ceux qui, sachant être innocents, ne veulent pas se dissocier du parti et finalement disent « oui, je suis coupable ». Ce sont les innocents qui plaident leur culpabilité.
Vous avez parlé d'un Pascal tout à l'heure, Nicolas Grimaldi, Pierre Pascal. On va parler d'un autre Pascal avec vous, Blaise. Blaise Pascal et de ce qu'il dit, ce texte fameux qu'il faut faire entendre à ceux de nos auditeurs qui ne l'auraient pas en tête, comme à ceux de nos auditeurs qui le connaissent déjà, la fameuse pensée 181 de l'édition Brunschvic, me semble-t-il, qui est « Tous les hommes recherchent d'être heureux ».
C'est 181 chez Lafuma et 425 chez Brunschvic.
Je m'incline devant votre science, Nicolas Grimaldi. 425 chez Brunschvic, 181 chez Lafuma.
Si ce n'était un des textes qui m'a accompagné toute ma vie, non, je n'ai
pas le Ne vous en défendez pas, vous les connaissez toutes. Pascal, donc, pensée 425 chez Brunschvic, écoutez.
Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas est ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Et cependant, Depuis un si grand nombre d'années, jamais personne, sans la foi, n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement, tous se plaignent, de tous les temps, de tous âges et de toutes conditions. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même. Lui seul est son véritable bien. Et depuis qu'il l'a quitté, c'est une chose étrange qu'il n'y a rien dans la nature qui n'ait été capable de lui en tenir la place. Astres, ciel, terre, éléments, plantes, choux, poireaux, animaux, insectes, veaux, serpents, fièvre, peste, guerre, famine, vice, adultère, inceste. Et depuis qu'il a perdu le vrai bien, tout également peut lui paraître tel, jusqu'à sa destruction propre, quoique si contraire à Dieu, à la raison et à la nature tout ensemble.
Le philosophe Nicolas Grimaldi est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi. Nicolas Grimaldi qui est entre bien d'autres livres, l'auteur de Une démence ordinaire paru aux presses universitaires de France. Et c'est de ce livre que nous parlons, en tout cas de lui que nous partons, pour une discussion libre dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à la question de la folie. Nicolas Grimaldi, vous me disiez, pendant que s'élevaient les mesures sombres de Ligeti en sortie de ce texte de Pascal, donc la pensée 425, édition Brunschvic, c'est vous qui l'avez dit, vous me disiez que vous auriez pu passer votre vie à commenter ce texte.
C'est vrai. Et non seulement je pourrais...
Je me demande si vous ne l'avez pas fait, d'ailleurs.
Ah, c'est ce que... Vous m'ôtez les paroles que j'allais dire. Il me semble n'avoir pas achevé de le faire, mais peut-être ne me suis-je employé qu'à cela. Lorsque Pascal nous dit « Tous les hommes recherchent d'être heureux », tous tendent à ce but. Donc, le bonheur est la finalité, l'ultimité d'une tendance. Cette tendance... c'est la vie, car sous quelque figure qu'on la considère, la vie est toujours une tendance, comme la graine tente à être un fruit, etc., comme l'enfant tente à croître, à parvenir à sa forme adulte, etc. La vie est tendance. Aussitôt a-t-on remarqué que la vie se réfléchit en conscience. Il devient vraisemblable de penser que la tendance constitutive de la vie se réfléchit en attente constitutive de la conscience. De sorte que, on pourrait dire que la tendance est à la vie ce que l'attente est à la conscience, son principe.
Sa source vive.
Toute tendance... Une tendance n'existe que parce qu'elle est contrariée. Toute tendance est une dualité de tendance. Sinon, elle s'accomplirait déjà dans ce qu'elle tente à réaliser. Si elle ne le réalise pas, c'est parce qu'à l'effort s'oppose une résistance tout aussi originaire. Il y a donc un dualisme, un conflit, un antagonisme constitutif de la vie.
Est-ce que cet antagonisme, pardon Nicolas Grimaldi, on reste dans ce débat, mais est-ce que cet antagonisme ne tient pas à la nature même du désir qui est le mien, du désir où s'origine cette tendance, d'un désir qui, reposant sur ce qui lui manque, telle est la conception que vous faites du désir, enfin que vous proposez du désir, d'un désir qui, reposant sur ce qui lui manque, se donne d'emblée un objet absolu, c'est-à-dire un objet de nature à le combler durablement, un objet finalement dont le désir ne s'épuise pas dans l'obtention de l'objet qu'il se donne, mais qui est un objet qui, par définition, voilà, ne peut pas être obtenu.
Pascal récuse que ce soit par définition. Descartes dit, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la trace et la marque, toute vide. Comme, car la trace, c'est la métaphore ou l'image, précisément, et l'image en vide de ce qui sait, de ce qui a posé en plein son empreinte. De sorte que cette inquiétude, le fait que nous soyons sans cesse, que nous tendions toujours vers autre chose, comme dit Malebranche, le fait que nous ayons toujours du mouvement pour aller plus loin. Selon Pascal, ou selon Thomas Augustin, ou selon Malebranche, et parce que le péché nous a fait perdre ce que nous avions possédé. De sorte que le désir, l'attente, l'inquiétude sont précisément ce qui reste en nous de cette présence perdue, c'est-à-dire l'expérience d'une absence, le manque. Inversement, Leibniz, Hegel feront de cette inquiétude le dynamisme d'une positivité, ce par quoi le présent n'est jamais concilié avec lui-même, jamais satisfait de lui-même, de sorte que sans cesse, il crée quelque chose de nouveau.
Vous avez une troisième voie, il existe un troisième terme.
Je l'attends.
Mais c'est Spinoza.
Il n'y a rien à attendre.
Précisément, il n'y a rien à attendre et à partir de là, n'ayant rien à attendre, puisqu'il serait déraisonnable en un sens de suspendre son bonheur à autre chose que soi, Spinoza, dans ces conditions, propose un rapport au monde qui, à la fois, est un rapport qui nous sort d'une dialectique du manque et de la satisfaction et qui, en même temps, s'attache à faire la généalogie de nos idées fausses, à montrer qu'elle est, à essayer d'avoir la connaissance exacte de ce qui n'est pas encore une connaissance ou de ce qui n'est qu'un début de connaissance, c'est-à-dire par exemple la croyance.
Je serais entièrement d'accord avec vous, sauf sur un tout petit point que votre analyse me paraît laisser un peu de côté, qui à Bois me paraît au contraire tout à fait originaire et fondamental, c'est l'essentia actuosa, je le dis en français, le fait que tout ce qui est possible est réel. Tout ce qui est dans l'essence est dans l'existence.
Ça, c'est chez Spinoza.
De sorte que chez Spinoza, il ne peut pas y avoir de tendance, il n'y a pas de passage de la puissance à l'acte. C'est le problème de Spinoza, selon moi. Le problème de Spinoza, c'est que la vie, au sens biologique, c'est-à-dire au sens de la fin est déjà à l'œuvre dans le commencement, ce qui est le sens de la vie, par exemple, chez Aristote, cela n'a aucune place chez Spinoza.
Non, car le désir n'est pas l'expression du manque, mais de la plénitude.
Voilà. Et c'est pourquoi ce qu'on traduit par effort chez Spinoza, et qui est l'essence même de toute existence, mais c'est un effort pour ne pas changer, alors que tout effort semble une tendance au changement. C'est un effort pour demeurer, c'est-à-dire pour se conserver en dépit de tout ce qui nous menace.
Revenons-en, Nicolas Grimaldi, revenons-en à nos moutons, en l'occurrence, c'est-à-dire nos moutons fanatiques.
Et oui, ce qui me paraît tout à fait fascinant dans cette pensée de Pascal, c'est la fin. Depuis que nous avons perdu Dieu, c'est-à-dire ce en quoi il n'y a plus d'attente, depuis que nous l'avons perdu, il n'est rien qui n'ait pu en tenir place. Et c'est que nous vivons dans un fétichisme infini. Il n'est rien d'aussi absurde que nous ne pouvons considérer comme, comme le signe de Dieu, qu'il puisse être adoré. Ce qui fait, donc il y a un aveuglement par rapport au réel, je ne veux pas voir sa finitude, sa précarité, sa pauvreté, et je lui attribue quelque chose d'absolument irréel. Il est le truchement de la toute-puissance, de la bienveillance. Et par conséquent, nous allons déposer des offrandes auprès de statues, auprès des statues des saints, ou bien nous pensons que Dieu va se manifester lors d'un combat. L'innocent sera celui qui sera battu, comme chez Lohengrin. Celui qui sera défait, eh bien, c'était forcément le coupable, puisque Dieu a donné la victoire à un autre. Et tout cela, ce sont des billevesées, n'est-ce pas? Ce sont des fantasmagories.
Revenons-en à ce que vous appelez la démence ordinaire. Nicolas Grimaldi, le caractère ordinaire de cette démence est-il à comprendre, par exemple, au sens où Hannah Arendt, dans le procès Eichmann à Jérusalem, revenant sur le procès Eichmann,
oui.
parle de banalité du mal. Les deux expressions se ressemblent, en l'occurrence. L'ordinarité de la démence ou la banalité du mal?
Tout à fait. Si j'ai parlé de démence ordinaire, ce n'est pas au même, tout à fait au même sens où Hannah Arendt parler de la banalité du mal. Cette banalité du mal, enfin, j'y ai consacré un livre, mais qui ne sera publié que en 3 ou 4 mois, lorsque j'ai tenté de comprendre l'inhumain. L'inhumain, c'est en Eichmann. Et en effet, lorsque vous lisez ou les chroniques ou les mémoires des dirigeants de tous les camps d'extermination, ce qui frappe, c'est combien... Ces gens ne sont pas des monstres. Rudolf Lang, le directeur, le dirigeant d'Auschwitz, vit selon l'impératif catégorique. Eichmann dira, moi j'ai toujours vécu selon l'impératif catégorique de Kant. Et ce sont des petits employés qui font le mieux possible, tout ce qu'on leur dit. Leur horizon ne va pas au-delà. Alors, il y a premièrement, ces millions de gens dont chaque seconde est le pire calvaire, ou pire que le calvaire, ils les ont sous les yeux, ils en organisent l'extermination, ils veillent à ce que le travail soit parfaitement exécuté, et ils n'en voient rien. Dans toutes les guerres de religion, c'est la même chose. Il y a donc un aveuglement. Et un aveuglement pareil à celui du rêve. Comme dans le rêve, l'irréel leur apparaît suprêmement réel et de la réalité, ils ne voient rien. Et d'autre part, ils sont entièrement happés par la croyance, par la croyance dans la toute-puissance et la bienfaisance d'un chef, d'une doctrine, d'un fantasme. Lorsqu'on aura éliminé tous les juifs, enfin, l'humanité sera sur le point d'être sauvée. Lorsqu'on aura éliminé tous les bourgeois, il y aura une société sans classe, elle sera pure. Et Kamenev, Zinoviev, ce sont en fait des enfants de bourgeois, donc il faut en finir avec cela, etc. Trotsky aussi, il est trop intelligent pour n'être pas bourgeois, à son propre insu. Donc il y a... En même temps, prendre une chimère, parce que la société sans classe, c'est quand même une chimère, je vais en donner un exemple, pour une réalité tellement suréminente qu'elle échappe à toute forme de démonstration possible. Il y a donc non seulement un aveuglement à l'origine de la croyance, mais aussi un envoûtement. Et l'envoûtement, est-ce que je peux donner un exemple banal ? Ordinaire d'envoûtement.
Le sacrifice de la messe.
C'est le jeu.
Ah, le jeu, d'accord. C'est mieux, allez-y.
Il n'y a de jeu que parce que nous reconnaissons comme si elles étaient réelles, des règles totalement contingentes, totalement arbitraires, et qui n'ont aucun fondement ni aucune réalité. Mais le jeu consiste, je joue à vivre le réel comme s'il était irréel, et l'irréel comme s'il était réel. Et quand je me prends au jeu, et il n'y a pas de jeu si on ne se prend pas au jeu. Quand je me prends au jeu, j'oublie que c'est un jeu. Et je vis le jeu comme s'il était sérieux. Le jeu consiste à cette feinte. Eh bien, la démence ordinaire consiste dans ce tout banal envoûtement par lequel, ayant donné notre consentement ou notre adhésion à des slogans, à des formules. Nous nous prenons au jeu et nous ne pouvons plus mettre en doute ce que nous vivons. Mais j'en prends un exemple. Marx. Marx, esprit empiriste, scientifique, qui fonde toute son argumentation à la fois sur l'histoire et sur les rapports des inspecteurs du travail dans les manufactures anglaises, nous montre comment... Par ces contradictions, le développement du capitalisme en sera en même temps la suppression. Donc, dans les pays où le capitalisme achèvera son développement, il suffira d'une sorte de pichelette pour que on se débarrasse d'un consortium ou de quelques conseils d'administration qui confisquent le monde, et on collectivisera les biens de production. Et cette productivité sera celle de l'humanité tout entière. L'humanité tout entière s'appropriera ce que son travail a créé. Il va de soi qu'une telle révolution ne peut pas se produire dans un pays presque entièrement agricole, où tous les pauvres moujiks sont accrochés ou enracinés à leur parcelle de glèbe et ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas, ne se réunissent pas, et par conséquent ne peuvent avoir aucune conscience de classe, où il n'y a par conséquent aucune concentration ouvrière, et où la rivalité des capitalistes entre eux n'a pas encore annihilé ou ruiné la plupart d'entre eux.
Marx ne voyait pas la révolution
par
en Russie.
Par conséquent, oui. La révolution ne peut... S'il y avait un pays où la révolution ne pouvait pas se produire, selon Marx, c'était la Russie.
C'est un pays qui n'a pas encore fait sa révolution industrielle. Mais...
Marx croit à l'histoire. Mais sa croyance à l'histoire est celle de n'importe quel scientifique à ses hypothèses, à sa théorie. C'est une hypothèse bien fondée. À l'inverse, Lénine n'est pas un scientifique. C'est un croyant, mais c'est une croyance qui ressemble à la foi. C'est-à-dire, il s'aveugle sur la réalité russe et il est envoûté par les théorèmes marxistes. Et donc, non pas éclairé par son entendement, mais cédant aux fulgurations de sa volonté, il décide de faire la révolution dans un seul pays, supposant que par entraînement, cela entraînera la révolution en Allemagne, en Angleterre, en France, etc. Donc la différence entre Marx et Lénine, c'est la différence entre la croyance fondée sur la vraisemblance, mais croyance qui peut toujours être réaménagée. La croyance d'un scientifique, c'est-à-dire ça me semble plus vraisemblable, et d'autre part, la foi d'un illuminé.
Rien ne caractérise aussi bien la nature et le processus de la foi que le sacrifice de la messe dans l'Église latine. Pour tous les fidèles, aussitôt prononcées les paroles sacramentelles, le pain et le vin en sont transubstanciés. Le Christ est là, en chair et en os, aussi réellement présent pour les assistants qu'il l'était pour les apôtres lors de la scène ou pour les Romains lors de la crucifixion. En se l'incorporant, chacun s'unit au corps souffrant du Rédempteur. En communiant, chacun offre son corps à Jésus, comme Jésus a donné le sien pour les hommes. L'acte de foi, la foi opérante, consiste en ce que chacun se sent alors vivre en Jésus comme il sent Jésus vivre et souffrir en lui. Le propre de la foi est donc d'éprouver l'irréalité du réel et la réalité de l'irréel. Elle se manifeste par conséquent comme une sorte d'hallucination volontaire. Quelle différence faut-il faire, selon vous, Nicolas Grimaldi, entre la foi telle que vous la décrivez ici, cette expérience que fait le croyant? Alors, tout le monde n'est pas croyant à la messe, puisque tout le monde ne fait pas cette expérience à la messe quand il communie. Néanmoins, cette expérience incontestablement vécue par un certain nombre de fidèles, et le scientisme de Marx, qui élaborant une science de l'histoire, considère à n'en pas douter que le capitalisme s'effondrera sous le poids de ses propres contradictions. Quelle différence faut-il faire entre ces deux formes de foi?
La même différence que celle que nous faisons dans le vocabulaire courant, dans le vocabulaire ordinaire, la différence que nous faisons entre la science et la foi. La science est une forme de croyance, c'est-à-dire tout ce que j'ai observé me conduit à penser, selon toute vraisemblance, que cette théorie a le plus de chances d'être vraie. Je l'accepte donc provisoirement comme la plus pertinente, la plus efficace, la plus heuristique des hypothèses de travail. J'y crois jusqu'à plus ample informé, jusqu'à ce que de nouveaux faits, de nouvelles expériences, de nouveaux calculs me conduisent à en douter et à la changer pour une autre. Donc, la croyance scientifique est ouverte sur l'avenir, elle est ouverte à la discussion, à la contradiction, à la contestation. Ce n'est qu'un moment du savoir. Elle se vit comme un moment. Et en cela, elle attend et presque elle espère ce qui la ruinera ou qui la contestera pour être surmontée, pour être dépassée. À l'inverse, la foi au sens où nous en parlions considère que une révélation a été faite, même si c'est une révélation marxiste, une révélation a été faite qui nous annonce ce qui doit être, ce qui sera, ce qui doit être la raison d'être de l'existence, la fin de l'histoire, la fin des temps, où tout sera enfin accompli, où tous les hommes seront rendus à leur propre plénitude, dans une commune transparence, la volonté de chacun étant celle de tous, et tous renvoyant à chacun son image. Chacun sera le miroir de l'autre. Ce sera ce qui serait la République rousseauiste. À cet égard, pour la foi, tout est déjà arrivé, comme dit l'Évangile, demain est hier, de sorte que il n'est pas de fait, il n'est pas de raison qui puisse valoir contre ce qu'on croit. Tout simplement, accepte-t-on éventuellement ce qui pourrait la renverser, ce qui pourrait la fortifier. D'ailleurs, à cet égard, puisqu'on évoquait la messe, enfin, il est assez quand même étrange, enfin très frappant, je veux dire. Renan s'en était effaré. Il est quand même fascinant de remarquer sur quel unique témoignage est fondée toute la foi chrétienne. C'est sur l'unique témoignage de Marie-Madeleine venant vers le tombeau. Il lui semble vide et lui semble voir Jésus qui lui dit « ne me touche pas ». Elle dit « s'il me dit de ne pas me toucher, c'est donc que j'aurais pu le toucher. Si j'aurais pu le toucher, c'est donc qu'il est là, qu'il est réel, en chair et en os. » Elle court, elle voit Saint-Jean, lui dit « il est ressuscité ». C'est l'unique témoignage de cette expérience semblable. L'histoire du christianisme en a 100 000, comme deux gamines qui voient apparaître la Vierge, qui lui dit « voici un chapelet, tu diras de faire construire ici un sanctuaire ». Il y en a 100 000. Le Chateaubriand, quand on ne penserait pas à Bernadette Soubirou, Chateaubriand en raconte l'exemple dans sa vie de Rancé. Et ce qui me paraît le plus singulier, c'est que je comprends bien, je crois, indépendamment de toute raison, d'où le credo qui est absurdum. Plus c'est absurde, plus... Car si Dieu faisait à tout bout de champ des miracles, on croirait à sa toute-puissance. Mais du même coup, on n'aurait aucun mérite à y croire, ce ne serait pas vraiment y croire. Rien ne serait plus vraisemblable que de constater l'évidence de la toute-puissance de celui qui interrompt l'ordre du monde à tout moment pour y produire un miracle. Mais ce n'est pas comme cela que les choses se passent. Seuls ceux qui ont la foi remarquent le miracle. Un phénomène se produit, et précisément parce que je crois à la toute-puissance de Dieu, et en même temps au signe que Dieu m'envoie, puisque prier, c'est s'adresser à lui, c'est être en commerce avec lui, je reconnais cet événement comme un signe, et ce signe comme une intervention divine. La chose touchante à cet égard, c'est alors même que la foi est imperméable à toute forme d'argumentation, d'objection, de discussion. Il n'y a contre elle ni démonstration, ni fait, ni expérience qui vaille. Et néanmoins, si on trouve un moindre témoignage archéologique, si on trouve le suaire de Turin, ah, ben voilà, c'est bien la preuve que nous avions raison, puisque les faits l'accordent. Donc on accepte que les faits qui concourent à fonder en raison un événement auquel on croit, plus qu'auquel on se fait un mérite de croire sans raison.
C'est dire donc que la croyance précède les faits qui viennent la valider et qui ne viendront pas l'infirmer. Malheureusement, Nicolas Grimaldi, on arrive, hélas, au terme de cet entretien, comme toujours d'ailleurs avec les conversations que nous pouvons avoir ensemble, avec le sentiment qu'il commence à peine. Il faut néanmoins s'arrêter là-dessus.
Que c'était une définition que Grégoire de Nice donnait de l'éternité, ce qui n'en finit pas de commencer.
Eh bien voilà, voyez, voilà la raison pour laquelle je regrette qu'on arrive déjà au terme de cet entretien. Une démence ordinaire, Nicolas Grimaldi, c'est c'est aux presses universitaires de France. On aurait pu parler du sens de la vie, de ce que vous dites du sens de la vie, revenir sur ce que vous dites de l'envoûtement, de la différence aussi que vous faites entre la croyance et la foi. On aurait pu entendre un texte de Rimbaud, un texte de Sébastien Hafner, extrait de l'histoire d'un Allemand. Autant de choses que nous n'entendrons pas aujourd'hui, mais je renvoie vraiment très, très chaleureusement l'auditeur à votre livre et je vous remercie d'être venu.
C'est moi qui vous remercie de votre invitation.
Tu es venu en grand secret d'une autre étoile que la mienne. Je me souviens que tu m'as dit le nom de cette galaxie. C'était Mais c'est un nom si dur à dire pour une lèvre de terrienne prise entre zénith et nadir. Depuis, les gens de ma rue.
Voilà, Nicolas Grimaldi, en vous remerciant une fois de plus, on prend congé de vous. Et sur quelques mesures de Juliette Gréco, je renvoie l'auditeur comme tous les jours à notre site internet pour y retrouver la bibliographie de vos travaux dont je recommande la lecture sans exclusive ni partage. 10h50 sur France Culture, c'est l'heure du journal des nouveaux chemins de la connaissance, c'est l'heure de retrouver Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Alors Adèle, Paul Celan aujourd'hui.
Oui, on passe de la folie à la poésie, puisque nous parlons effectivement de Paul Celan, poète et traducteur, mort en 1970 et qui fait partie de ces rares poètes de langue allemande qui continuent à écrire après la Seconde Guerre mondiale. Et ce, malgré la formule d'Adorno, qu'on ne connaît généralement que de manière tronquée, et qui écrit ceci, « Écrire un poème après Auschwitz est barbare, et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes ». On parle donc de Paul Celan, puisqu'on trouve en ce moment aux éditions du Bordelot un livre d'Alexinous qui s'appelle Paul Celan, les lieux d'un déplacement, et qui propose une présentation, une analyse très complète de l'œuvre de ce poète, pas toujours très connu en France. Malheureusement, l'auteur Alexinous, l'auteur de cet ouvrage, ne vit pas en France, et donc n'a pas pu venir aujourd'hui pour nous en parler, mais c'est l'auteur de la préface de ce livre qui a accepté de venir aujourd'hui. Bonjour Antoine Speer.
Bonjour.
Vous insistez beaucoup dans votre préface sur l'importance de la biographie de Paul Celan pour comprendre son œuvre. Il faut dire que dans ce cas précis, c'est particulièrement important puisque l'écriture semble une émanation directe du vécu. L'écriture de Paul Celan est placée sous le signe de l'exil, de la séparation et d'un terme qui est très important qu'on retrouve dans le titre qui est le déplacement, parce que le livre s'appelle « Les lieux d'un déplacement ». Et vous écrivez dans votre préface que le terme même de déplacement synthétise finalement toutes les problématiques qui sont à l'œuvre dans le texte de Paul Celan. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela ?
D'abord, il y a chez lui quelque chose d'essentiel, c'est que né à Tchernovitz, il est né dans la langue allemande, mais il parlait le yiddish, il parlait le roumain, et il parlait le français, il parlait aussi l'anglais. Il a fait beaucoup de traductions d'ailleurs à Tchernovitz. Il faut dire d'abord qu'il a connu, dans les premiers temps de la guerre, très vite, des travaux forcés, puisque les Russes ont imposé les travaux forcés à Paul Celan. Ses parents étaient enfermés dans le ghetto de Tchernovitz. Ils vont d'ailleurs tous les deux mourir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça va être pour lui en 1942 et en 1943, quand il va apprendre la mort de son père, puis la mort de sa mère. Ça va être un moment extrêmement terrible dans sa biographie.
Ils sont morts tous les deux en camp.
Oui, ils sont morts tous les deux en déportation. Ouais. Lorsqu'il va l'apprendre, il va y avoir pour lui quelque chose qui va se déclencher dans ses poèmes. On va lire toujours cette présence de la mort de ses parents et puis de la mort du peuple juif assassiné dans les camps. Et je crois que ce qu'il y a de très fondamental chez Celan, c'est qu'il a essayé de continuer à parler la langue allemande.
Oui, on lui a beaucoup reproché d'ailleurs d'écrire dans la langue des bourreaux.
Je ne sais pas si on est reproché, mais enfin lui se le reprochait. C'est lui qui se le reprochait plutôt. Et il se sentait coupable de parler allemand et d'écrire en allemand. C'est curieux parce que Ingeborg Bachmann, dont les œuvres viennent de paraître chez Actes Sud, avait exactement la même démarche. C'est-à-dire Ingeborg Bachmann, qui était une grande amie aussi de Paul Celan, se reprochait aussi d'écrire en allemand. Et elle se sentait coupable. Et ce qui est formidable chez Celan, c'est que se sentant coupable d'écrire en allemand, il continue quand même à écrire en allemand.
Oui,
il y a un déplacement de l'allemand vers d'autres langues. Alors, excusez-moi, mais juste un mot pour dire que ce qu'il y a d'extraordinaire dans la langue de Celan, c'est un poète. Mais ce qui est extraordinaire dans sa langue, et c'est ce que montre très bien Alexinus, c'est qu'il use d'un mélange entre l'allemand, le yiddish et quelquefois des mots qui viennent d'autres langues. Et notamment pour parler de la Shoah, il dit qu'il est bien normal qu'on utilise le yiddish pour parler l'allemand qu'il veut pratiquer. Et c'est déjà ce premier déplacement que signale Alexinus. Il y en a un deuxième, c'est le déplacement, je dirais, par rapport à Heidegger, parce qu'on a beaucoup, appelé Celan poète heideggerien, on a parlé de l'influence d'Heidegger. Et je crois que là, maintenant, après ce livre, on ne pourra plus dire que Celan est un poète heideggerien. Il y a quand même un déplacement à faire. Vous savez que Celan a été rencontré à Heidegger. La rencontre est absolument extraordinaire, puisque ça commence d'abord par un moment d'hommage total à Celan. On est après la guerre, il y a plein de monde. Et puis Celan assiste donc à une remise de prix. Il fait une conférence, et puis ensuite Heidegger lui remet un prix. Et ensuite, il va dans la petite maison d'Heidegger, dans la forêt. Voilà. Et là, dans la petite maison d'Heidegger, dans la forêt, il écrit sur le carnet d'Heidegger, le carnet, « J'ai toujours regretté qu'Heidegger n'ait jamais rien dit sur ce qu'il a fait lorsqu'il était au rectorat, voilà. Et qu'il a donc pris des responsabilités sous le nazisme. » Et je trouve que Celan le fait très discrètement, mais en même temps, il montre qu'il y a une rupture fondamentale entre lui et Heidegger. Et d'ailleurs, à plusieurs moments, on sent que la conversation est impossible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait écho à un livre absolument magnifique qui s'appelle « Le discours sur la montagne », dont Nuss parle aussi très bien. Ce discours sur la montagne, c'est 35 pages.
Et c'est pas la même chose que l'entretien dans la montagne.
Oui, l'entretien dans la montagne. Ou discours, c'est traduit entretien et discours sur la montagne. Mm-hmm. C'est l'entretien avec Adorno.
Voilà, c'est
entretien
ça.
Avec Adorno, en fait, d'ailleurs, Celan est très très discret. Adorno, c'est Gross, ce qui veut dire le grand. Mm-hmm. Et lui, Celan, il est Klein, le petit. Mm-hmm. Donc il se donne déjà le rôle du petit, en face du Gross qui est Adorno. Et dans cette discussion entre le petit et le grand, ce qui est de plus fondamental, de plus extraordinaire, me semble-t-il, dans l'attitude de Celan, c'est que petit à petit, les choses se renversent et lui, Klein, il dit à Gross qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa manière de considérer la langue allemande. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa manière de considérer son identité de juif de langue allemande. Et qu'il ne peut pas mettre ses pieds dans l'identité juive de langue allemande sans mettre ses pieds dans quelque chose qui est dramatique. D'où un conflit. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que Nuss, dans son livre, essaye de réconcilier Adorno
et Celan.
Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure sur la phrase d'Adorno concernant la poésie, montre que Adorno disait on ne peut pas écrire de poésie après Auschwitz. D'ailleurs, Nuss a le grand mérite de citer la phrase dans son entièreté, comme vous l'avez fait. Mais je crois qu'il ajoute quelque chose de très, très important. Il ajoute la chose suivante, c'est qu'il lui semble que pour Nuss, c'est essentiel, Adorno et Celan peuvent se retrouver. Bien qu'ils soient sur la montagne, ils ne se soient pas retrouvés. Ils n'aient pas pu parler. La nature était presque entre eux, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes mots pour parler de la nature. Ils ne se sont pas retrouvés. Et moi, je pense qu'ils ne se sont jamais retrouvés. Et qu'en fait, le langage d'Adorno condamnant la possibilité de la poésie, c'est quelque chose qui montre que Celan aurait été impossible. Or, Celan n'est pas impossible qu'il ait existé.
Voilà, donc là, sur ce point, vous êtes en désaccord avec l'auteur
de
l'auteur.
Point,
en tout cas, je renvoie les auditeurs à la préface
c'est un très beau livre.
Que vous avez écrit de ce livre. Donc, Paul Celan, Les lieux d'un déplacement, qu'on trouve aux éditions Le bord de l'eau. Merci beaucoup, Antoine Spire.
Merci, Adèle. Qu'avez-vous trouvé d'autre sur l'étal
Alors, sinon,
de nos
un séminaire. Le mercredi 20 janvier aura lieu la troisième séance du séminaire L'homme sans autre au Collège international de philosophie. Vous vous souvenez peut-être, Dominique Quesada était venu nous présenter ce séminaire il y a quelques semaines dans le journal Les Nouveaux Chemins. Le fil directeur de ce séminaire est le constat de la disparition d'un concept fondamental de la pensée occidentale, qui est l'autre. Et là, on voit qu'on n'est pas très loin non plus des problématiques qui intéressent Paul Celan, puisqu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais l'autre et autrui, et toute cette thématique de la rencontre à travers le poème, de la rencontre de l'autre, est très très importante aussi dans l'œuvre de Paul Celan. Donc la séance de ce séminaire, animée par Dominique Quesada, aura lieu le mercredi 20 janvier, de 19h à 21h, à l'Université Pierre et Marie Curie. On trouve toutes ces informations, évidemment, sur le site des Nouveaux Chemins.
Comme on trouve, évidemment, toutes les indications bibliographiques relatives à l'émission que vous venez d'entendre. Une émission que vous pouvez retrouver, donc, comme toutes les émissions de la semaine, sur notre site internet. Une émission que vous pouvez également télécharger. Suite et fin demain, vendredi, dans les nouveaux chemins de la connaissance de cette semaine, sur la folie et autour d'elle, après Foucault, après Artaud, après le cinéma et après Grimaldi. Nous finirons par le commencement, ou ce qui peut-être aurait dû l'être, c'est-à-dire avec Erasme, le prince de l'humanisme, le moine épicurien, l'auteur de l'extraordinaire éloge de la folie, dont Jean-Claude Margolin viendra vous parler demain. À demain donc, de 10h à 11h, comme tous les jours, du lundi au vendredi. France Culture, il est 10h59. Dans un instant, question d'époque.